Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic.
On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel. 106.3. Eh bien bonsoir, c'est l'heure de Radio Déclic sur les ondes FPP 106.3. Avec moi aujourd'hui Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Florence et salut à tous. Aujourd'hui les informations, je reçois Bali Bagayoko, maire adjoint au sport et les rendez-vous culture sur les ludothèques de la ville.
Et oui, bien sûr, Euro oblige et puis vous pourrez entendre un extrait du débat dans le cadre de Forum du sport organisé par l'Agence pour l'éducation par le sport, l'APE ELS, et puis évidemment en partenariat avec la ville de Saint-Denis. Voilà, il se passe plein de choses à Saint-Denis, mais tout de suite, c'est les informations. Principales infos des deux dernières semaines.
Après Orlando, Bruxelles, Paris, Bamako, Istanbul, au moins 41 personnes ont perdu la vie dans un double attentat suicide le 28 juin 2016 à l'aéroport international de la capitale turque. 239 ont aussi été blessés. La piste djihadiste est envisagée. Ils sont morts sous le feu de monstres remplis de haine et de valeurs liberticides. Plus de précisions dans la presse de demain. Le peuple britannique a choisi le out le 23 juin. À présent, il ne fait plus partie des 28 États membres de l'Union européenne. Décision qui a donné des idées à certains extrémistes populistes comme Marine Le Pen, qui a jugé bon d'organiser un référendum sur un éventuel Frexit. Dans le même sens, le leader du parti xénophobe et raciste hollandais déclare vouloir faire sortir son pays de l'Union européenne. L'interrogation principale aujourd'hui est: que va devenir l'Europe sans la 6e puissance mondiale ?
Les infos générales.
Après la manifestation circulaire du 23 juin 2016 contre la loi El Khomri, qui avait, souvenez-vous, suscité de vifs débats entre les partenaires sociaux et le gouvernement sur l'interdiction ou non, les opposants au texte ont défilé partout en France le 28 juin 2016. Entre 64 000 personnes selon la police et 200 000 selon les organisateurs ont défilé. En marge de cette manifestation, 27 casseurs ont été interpellés par la police. Charlie Hebdo est une nouvelle fois la proie de menaces de mort, et celles-ci ont été prises au sérieux et très bien entendues par la préfecture de police, qui a ouvert une enquête pour menaces de mort le 22 juin. La brigade de répression de la délinquance contre la personne est en charge de l'enquête.
On passe maintenant aux infos locales.
Et oui, le quartier Framoisin bénéficiera du NPNRU, le nouveau programme national de renouvellement urbain. Le programme est basé sur des propositions émanant directement des habitants des quartiers. De la prévention à la délinquance sera mise en place, les structures associatives renforcées. Le vote a été effectué en conseil municipal mercredi dernier, il me semble.
Oui, non, exactement.
C'est ça.
On passe au sport, toujours.
Euro 2016, deuxième Brexit pour l'Angleterre. L'un des plus grands exploits de l'histoire du football. L'Islande a éliminé l'Angleterre 2-1 à Nice pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro de football.
Et on finit avec la météo.
La température moyenne ce week-end sera de 20 degrés. Le temps sera couvert le samedi et ensoleillé le dimanche.
Moment, drown the whole world out. We're in this
êtes toujours à l'écoute de l'émission Radio Déclic sur les ondes FPP 106.3. Et oui, Euro oblige, vous l'avez sans doute reconnu, l'hymne officiel de l'Euro 2016 de David Guetta avec Zara Larsson. Alors Mehdi, aujourd'hui ?
Eh bien, je reçois Bali Bagayoko, qui est maire adjoint au sport et aux grands événements à la mairie de Saint-Denis. Jusqu'au 10 juillet se tient l'Euro 2016, le championnat d'Europe des nations de football en France. Ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement au déroulé de cette compétition de grande ampleur à Saint-Denis, au Stade de France. Et pour en parler, nous recevons donc Monsieur Bali Bagayoko, maire adjoint au sport à la ville de Saint-Denis. Bonsoir Bali.
Bonsoir Mehdi.
Pour commencer cette interview, j'aimerais revenir sur un point important de la sécurité aux abords du stade et de la fan zone. Alors, expliquez-nous concrètement le dispositif de sécurité de la fan zone de Saint-Denis. Quels moyens la ville a-t-elle mis en place ?
Sur la fan zone, c'est 11 000 mètres carrés. Sur ces 11 000 mètres carrés, vous avez 300 officiers donc, en charge de la sécurité qui sont affectés donc, par la police nationale. Vous avez ensuite l'ensemble des effectifs de police municipale qui sont affectés, à peu près une quarantaine d'officiers, donc police municipale. Vous avez à cela le complément avec des agents de sécurité, donc principalement ces premières lignes, hein, donc, qui apportent des moyens humains aussi conséquents. Ensuite, nous avons l'ensemble de ce dispositif est complété par un système de vidéosurveillance sur l'ensemble du périmètre.
D'accord, mais est-ce que, parce qu'on peut observer quand même une baisse de dispositif de jour en jour, comment vous pouvez expliquer ça ?
En fait, sur le dispositif lors des matchs, on a un dispositif renforcé plus avec un cahier des charges où de toute manière on a un nombre d'agents de sécurité et d'effectifs police municipale et police nationale, donc on regarde la surface à couvrir. Et en revanche, sur les périodes hors match, on a véritablement un dispositif qui est plus allégé puisque là l'objectif c'est véritablement d'être sur une approche plus conviviale. Donc la fan zone est plutôt dédiée principalement, je vais dire, à les activités de loisirs.
Passons maintenant, si vous le voulez bien, au financement de cet euro et notamment l'impact sur le contribuable tunisien. Alors combien a coûté la fan zone ?
La fan zone, c'est 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros sur l'ensemble de ce qui constitue la fan zone. Il y a un tiers de ce montant qui est consacré à la sécurité. Et les deux autres tiers en fait, sont affectés à la fois sur toute la programmation, l'achat de matériel, bien sûr les stands et puis principalement les artistes, puisqu'il y en a un certain nombre d'artistes qui viennent sur scène et donc qui du coup bénéficient de cachets artistiques pour pouvoir honorer leurs prestations.
C'est la ville qui a déboursé 2,5 millions d'euros
ont été apportés par l'UEFA, donc l'UEFA étant l'organisateur en fait de l'euro sur le territoire. Il y a une fiscalité qui est ponctionnée en fait sur cet événement. Normalement, nous aurions dû prétendre à 8 millions d'euros puisque nous sommes une terre d'accueil d'événements. Et donc l'historique nous permet de dire qu'un événement comme l'euro coûte en réalité 8 millions d'euros. Donc on est en droit d'attendre 8 millions d'euros. Malheureusement, la réforme sur la fiscalité, particulièrement au niveau de l'Europe, a fait en sorte que ce montant est ramené en fait à 2,5 millions d'euros. Mais il n'y a pas du tout de conséquences pour le contribuable puisque l'une des raisons pour laquelle nous avons accepté, c'était le fait que les jeux ne devaient coûter 0 euros, notamment la population. Donc ça ne coûte pas la population. Mieux encore, la population contribue véritablement à faire en sorte qu'on ait des jeux qui soient des jeux populaires.
D'accord. Et constatant que la fan zone attire très peu de monde par rapport aux effectifs de fréquentation prévus, il va de soi de parler avec vous, M. Bagayoko, des commerçants implantés. Alors quel est le prix de l'emplacement à la fan zone ?
L'emplacement à la fan zone a été ramené en fait à 6 000 euros. C'est 6 000 euros où là, on est sur Paris, on est sur des montants qui sont à 15 000, 20 000. Ce n'est pas le même volume puisque nous sommes sur un volume à peu près entre 10 000 et 15 000 personnes qui sont attendues. Alors là où sur Paris, on est à peu près à 100 000. Donc on est sur des volumes complètement différenciés. Donc c'est entre 5 000 et 6 000 euros en fin de compte la place pour des associations ou voire des entreprises.
Est-ce que c'est vraiment rentable de s'installer à la fan zone pour un commerçant ?
Bah pour un commerçant qui a les reins solides, qui a déjà une activité qui fonctionne plutôt bien, oui, c'est intéressant. Mais pour un commerçant qui démarre, c'est plus conséquent en termes de moyens financiers. Donc les risques sont beaucoup plus élevés. Et c'est la raison pour laquelle on trouve à la fois des commerçants qui sont vraiment des commerçants déjà anciens, donc qui ont véritablement l'habitude de ce type d'événement. Puis après, on a plutôt des associations, puisqu'il y a un stand qui est à destination des associations, mais celui-ci n'est pas aujourd'hui appelé notamment à financer, ne paye pas les 5 ou 6 000 euros.
Et comme je l'ai dit, la fan zone attire très peu de monde. Est-ce là la conséquence d'une opération com ratée ?
C'est à la fois une opération com qui peut en tout cas s'améliorer, notamment sur la partie sud de la ville, parce que quand on regarde le flux d'arrivée des populations, on se rend compte que ceux qui sont sur le cœur de ville, notamment centre-ville, sont plus impactés, donc du coup ont plus le lien avec la fan zone et viennent assez naturellement. La partie est de la ville, Floral, Saussay, Courtis, c'est déjà un peu plus loin, et donc du coup l'information n'est pas suffisamment, de mon point de vue, descendue jusqu'ici, encore sur la partie sud, et c'est encore pire. Donc on a une communication, à mon avis, qu'il faut parfaire, à la fois, je pense, par un dispositif de communication plus mobile, type lorsqu'on a, par exemple, le cirque qui s'installe dans un village, on a toujours le petit véhicule qui va dans le village pour appeler la population. Donc je pense qu'il faut trouver des formes de communication assez simples. Puis la deuxième chose, c'est aussi le risque. La peur existe encore dans l'esprit de chacun et chacune. Donc il y a aussi cette inquiétude-là qui existe. Troisième aspect, je pense que c'est aussi le fait qu'on ait une irrégularité dans l'ouverture de la fan zone, parce que la fan zone est ouverte essentiellement, je veux dire, sur les périodes de match, et qu'on se rend compte que ben, des fois, on peut faire 2 jours d'ouverture de la fan zone, et ensuite, on a 4 jours de fermeture, 2 jours ensuite d'ouverture. Donc, je pense que ce n'est pas forcément un dispositif qui permet à la population de pouvoir tout de suite se fidéliser dans l'accueil au niveau de la fan zone.
Et quelles sont les raisons de fermeture ?
Il y a 3 raisons. La première raison, c'est que bon, on avait déjà une discussion avec la chancellerie, qui est propriétaire de la Légion d'honneur. Et donc, il y a toute la période du bac où on n'avait pas le droit de faire de bruit. Donc, ça veut dire que clairement, tout ce qui était concert et tout ça, c'était hors de question. Donc, la fan zone était fermée à cette période-là. La deuxième chose, c'est sur les droits de retransmission, puisqu'il y a des droits que l'UEFA a pu obtenir pour chacune des villes hôtes. Et donc, durant ces ouvertures, en fait, on avait le droit notamment de diffuser, retransmettre en fait les matchs, et puis après les moments où on ne pouvait pas, et auquel cas la fan zone était fermée. Puis après, l'autre aspect, c'est plutôt un aspect de sécurité, c'est que comme il y avait nécessité systématiquement, quand la fan zone était ouverte, d'avoir l'ensemble des moyens en renfort, y compris police nationale, qui par ailleurs était aussi mobilisée sur d'autres secteurs, le choix a été fait notamment d'optimiser, ce qui veut dire qu'on avait accepté des fermetures pour justement permettre à ce que déjà les officiers puissent se reposer, et deuxièmement, pour que certains puissent aussi être affectés sur d'autres secteurs où il y a des besoins importants.
Et quelles activités on propose dans cette fan zone ?
Fan zone, c'est à la fois un espace qui se doit d'être à la fois au regard de l'activité sportive, puisque c'est aussi un moment où on retransmet les matchs, un moment convivial. C'est aussi un moment artistique, où vous avez des artistes d'horizons différents qui viennent sur scène. Un espace de village d'enfants, où il y a toute une activité sportive, loisirs, qui est développée par les différents services de la ville et de l'agglomération. C'est un espace aussi de convivialité, puisque c'est un moment où on peut apprécier la gastronomie dionysienne, entre autres. Et puis, bien sûr, c'est un espace aussi de communication, puisque vous avez beaucoup d'enseignes qui, aujourd'hui, contribuent à l'organisation des Jeux, qui sont aujourd'hui sur la fan zone et qui font aussi la promotion de leur enseigne.
Oui, et puis on peut rajouter aussi un aspect particulier sur, qui a été porté au niveau de la fan zone sur le respect du parc et de sa propreté, avec des gobelets recyclables, la redistribution du surplus alimentaire. Ça, c'est aussi des choses importantes.
C'est vrai.
La municipalité a affiché la volonté que cet euro soit un euro populaire, notamment avec l'équipe de France de Saint-Denis. Nous, vous allez nous expliquer le fonctionnement.
L'équipe de France de Saint-Denis, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les personnes qui constituent cette ville font partie de l'équipe de France de Saint-Denis. Donc le principe, il était de dire que c'est pas uniquement, entre guillemets, la dizaine ou 11 ou les 11 joueurs qui constituent une équipe, mais c'est les 110 000 habitants en fait, de cette ville qui constituent l'équipe de France et l'équipe de Saint-Denis. Et donc, le principe était assez simple, c'est-à-dire que chaque habitant pouvait et peut encore se prendre en photo et ensuite le renvoyer sur le site de la ville. À partir de cet acte-là, il rejoint en fait l'équipe. Donc aujourd'hui, on dénombre qu'on est à peu près, il y a 40-45 000 photos qui ont été envoyées. Et donc, c'est véritablement la démarche de se dire que ces jeux sont aussi les nôtres.
Et quelles démarches ont été initiées par la municipalité pour favoriser la participation des habitants et notamment des jeunes ?
Les jeunes, on a beaucoup insisté sur les directions qui sont directement en contact avec la jeunesse. Je pense à la direction de la jeunesse, les sports, l'enfance, l'éducation, puisqu'on a tout un volet dans les écoles qui ont été travaillées. Donc avec un principe assez simple, c'était de traduire en fin de compte des actions autour de jeux qui permettaient ensuite de pouvoir gagner un certain nombre de places. Donc au total, c'est 6800 billets qui ont été distribués en direction de jeunes du territoire. C'est bien sûr le mouvement associatif, particulièrement sportif, qui ont été aussi mobilisés, alors qui ont organisé un certain nombre de tournois sur la ville et dans les différents quartiers de la ville. Et à chaque fois, il y avait bien sûr des récompenses particulières à gagner, particulièrement des billets.
Oui, puis pour inciter aussi, c'est le festival aussi hip-hop, ouais, des cultures hip-hop urbaines qui a été cette année, qui est pendant l'Euro.
Radio Déclic 106.3. Fréquence Paris Pluriel.
On retrouve Mehdi et son invité, Bali Bagayoko, maire adjoint au sport de la ville de Saint-Denis.
On va vous faire écouter un son et puis vous allez réagir.
Bah, je fais du rugby parce que c'est un plaisir en fait de monter sur le terrain et de dire ouais, je vais jouer avec mes amis. On va faire le sport qu'on aime. C'est une sensation formidable.
Bah, en fait, on aime jouer avec nos amis et grâce à notre prof, et on apprend plus, on travaille à l'école et tout.
Bah, ce qui me plaît, c'est le fait de se donner des défis, en fait. D'aller courir, mais pour un but précis, en fait. C'est ce qui m'anime, en fait. Et le fait de le voir courir, bah, ça me donne aussi envie de courir. Personnellement, moi, je le sentirais plus, pas vraiment individuel, mais c'est plus, on court plus pour soi que pour son équipe, en fait. Après, oui, c'est aussi un plaisir quand on gagne, on partage aussi avec ses coéquipiers, mais sinon, c'est plus personnel, je dirais.
Je m'appelle Victoria, je viens du collège Jean Jaurès. Montfermeil. Moi, je fais du basket, ça me plaît parce que ça nous permet de partager le sport avec nos amis, ça nous permet de nous améliorer aussi et ça nous permet de rester en bonne santé aussi. Voilà.
Je fais de la boxe parce que pour me défouler.
Bah, bonjour, je m'appelle Yasmine, je fais de l'escalade, j'aime ce sport et voilà.
Cette question, en fait, on l'a posée à Saint-Denis. On l'a posé à plein de jeunes qui nous ont répondu, qui nous ont donné plein d'avis sur pourquoi ils font du sport. Alors eux, la plupart des jeunes de Saint-Denis qui nous ont répondu ont dit nous, on aime bien faire du sport parce qu'on se dépasse. C'est un petit peu ce que tu nous as dit par rapport à l'athlétisme, le fait de se dépasser, de s'engager, etc. Mais pas tellement pour la gloire, pas tellement pour la compétition. Ce qu'on aime vraiment, c'est se dépasser et puis s'amuser, ça a été dit aussi. Et alors, est-ce que, grâce au sport, on réussit mieux à l'école ? Alors, globalement, les gens disent oui, que grâce au sport, eh bien, on réussit mieux, on est mieux dans son collège, dans son établissement scolaire, on a des meilleurs résultats de manière globale. Et par contre, on leur dit, est-ce qu'il faut multiplier par deux la note de sport dans le bulletin ? Est-ce qu'elle doit compter deux fois plus que les autres notes ? Et là, par contre, globalement, ils disent non. Il faut que ça reste à sa place. Voilà. Et puis quand on dit, alors quand vous pensez aux sportifs de haut niveau, qu'est-ce que représente un sportif de haut niveau ? Ça représente la rigueur, la persévérance, le travail, etc. C'est surtout ça que ça représente. Et finalement, ce que les adultes détestent chez les sportifs de haut niveau, la plupart, hein, les caprices de stars, les scandales, la richesse, les abus, etc. Finalement, les jeunes collégiens, donc de 11 à 13 ans, disent on s'en fiche, nous ça nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'image de la gagne, de la rigueur, de la persévérance.
Voilà, c'était un extrait lors du forum du sport qui s'est déroulé à la salle de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Et là, c'était un débat, on écoutera un autre extrait tout à l'heure, sur justement le sport est-il un leurre pour les jeunes. Alors Bali, on sait que vous êtes aussi un grand sportif. Le sport pour vous, est-ce que finalement ça vous a aidé aussi dans votre parcours ?
Moi, ça m'a beaucoup aidé, puisque je suis... un enfant issu d'une fratrie où on est neuf, donc j'ai grandi à Gaston-Dourdin, donc mon père était seul à travailler, donc on a eu déjà pour objet en fait l'activité sportive, parce qu'on pratiquait beaucoup en loisirs, notamment dans les différents quartiers de la ville, et puis après j'ai fait le chemin d'aller en fait dans une association, dans un premier temps pour le foot et ensuite après au basketball. Mais c'est un élément qui est extrêmement important à la fois pour rencontrer d'autres jeunes, puisque c'est vrai que le milieu qu'on identifie dans nos quartiers, après quand on part dans un club, on rencontre encore d'autres personnes, et quand on commence à faire des déplacements liés notamment à son activité sportive, et du coup on rencontre encore d'autres personnes. Donc c'est un énorme moyen d'élargir finalement ces réseaux, et avant de devenir ensuite, je veux dire, un outil qui permet l'excellence sportive ou autre, mais c'est vraiment un élément qui permet de rencontrer du monde, de croiser des gens extrêmement intéressants, et puis aussi de se construire soi-même, quoi.
Alors justement, est-ce que le sport est un leurre pour les jeunes ?
Non, je pense que le sport en soi n'est pas un leurre. En revanche, je pense que ce qui fait que le sport peut devenir un leurre, c'est l'ensemble du système qu'il y a autour du sport. Mais l'activité en tant que telle, c'est pas un leurre. C'est-à-dire que le sport, premièrement, on peut le faire chacun au rythme que l'on souhaite. On peut ne pas en faire, et ne pas en faire, c'est aussi une forme d'activité d'ailleurs. Et on peut ensuite, bien évidemment, je veux dire, en faire un élément très dynamisant pour soi, soit c'est un projet professionnel ou autre. En revanche, c'est là où il y a un élément qu'on maîtrise moins, c'est tout le système qui est autour du sport, où finalement on fait rêver, bien sûr, des jeunes et des moins jeunes, et parfois, très souvent, il y a les dessous du sport, et donc avec tous les travers que l'on peut observer.
C'est bientôt la fin de cette interview, alors je vous laisse la conclusion. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ?
Et moi, j'ai envie de dire que sur la question de l'euro, c'est un véritable moyen de prendre à contre-pied tout le discours que l'on peut entendre sur Saint-Denis, puisqu'on a trop souvent tendance à montrer cette ville uniquement sous l'angle négatif, et le travail conséquent qui est fait à la fois par des médias comme des clics permet véritablement de montrer la véritable diversité de cette ville, à la fois dans son contenu, mais aussi dans les messages que l'on peut faire passer. Et s'il y a un message important que l'on peut faire passer, c'est de dire à tous ceux qui aujourd'hui peut-être ont peur de cette ville, de ce territoire, juste venez. Nous avons la capacité d'accueillir l'euro dans des conditions qui sont des conditions extrêmement compliquées. Nous accueillons de manière conséquente dans le cadre du Stade de France, de dire des événements extrêmement importants. Et peut-être demain, nous allons pouvoir même être contributeurs dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Donc c'est ici finalement que le monde se dessine et c'est maintenant qu'il faut venir voir. Et vous aurez vraiment une véritable surprise. C'est-à-dire que la ville de Saint-Denis et les habitants de Saint-Denis savent accueillir.
En tout cas, on peut aussi rajouter qu'il n'est pas trop tard. On peut toujours venir dans la fan zone au Parc de la Légion d'honneur de Saint-Denis, puisqu'il est, voilà, l'euro n'est pas fini. Et puis, comme tout à l'heure, on l'a dit, pendant les matchs, les examens sont finis. Donc voilà, maintenant, la fan zone va pouvoir marcher à plein pot, comme on dit. Voilà, avec des concerts, des animations, des choses pour les enfants. Donc plein de choses. Donc je vous encourage à venir sur la fan zone. Donc le métro le plus proche, c'est Saint-Denis Basilique, et puis la fan zone, c'est bien indiqué, il y a plein de flèches, et puis avec des concerts, hein, il y a eu déjà pas mal de concerts, et puis pour la finale, je crois que c'est LEJ, Grand Corps Malade, il y a Cut Killer aussi qui est passé, donc vraiment plein de choses à faire.
Et où est-ce qu'on peut trouver le programme ?
Le programme, il est sur le site de la ville, ou sinon sur Facebook, vous tapez Saint-Denis, et là vous avez complètement l'ensemble du programme.
Bah merci Balé Bagalico.
Merci puis, bien.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Des tchatchers, la division 1 ne me fait pas peur. Le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je shoote dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off. Moi je marque des buts même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme Roumenigue. Je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un passement de jambe sur le beat de flanc.
Un passement de jambe,
un passement de jambe.
Un
passement de jambe sur le beat de flanc.
Un passement de jambe,
un passement de jambe.
Un
passement de jambe sur le beat de flanc.
Un passement de jambe, un passement de jambe.
Transfert effectué. L'homme de l'année a enfin signé. Prêté par la secte au Virgin AC. Ma tchatch est brossée, tous mes mots sont cadrés. Même Mark Landers en tombe à la renverse. À l'aise dans mes copas, stylé en diadora. Je suis le prince du parc Guadala. On fait la hola pour Umbro Gineco. Et ouah ah pour Cantona. Rescapé de la grande époque des verts. Je remonte le score quand ma clinique perd.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Radio Déclic sur les ondes de FPP 106.3 et vous venez d'écouter un extrait du morceau de Doc Gynéco avec Passement de jambes. Dans un contexte plein d'incertitudes, le sport est sans doute un espace de jeu, de lien social, de performance unique au monde pour la jeunesse. À l'inverse, il est aussi un lieu où, hélas, les pires dépassements ont lieu. Dopage, argent roi, et où les valeurs ne sont qu'habillage médiatique. À l'occasion de l'Euro 2016, la ville de Saint-Denis et l'Agence pour l'éducation par le sport, APELS, ont donc décidé de réinterroger ce modèle de manière inédite en donnant la parole à des acteurs divers et en priorité à la jeunesse. Je vous propose d'écouter donc un extrait du débat qui a eu lieu avec pour animateur Eric Fotorino, journaliste et écrivain, cofondateur du magazine Le 1 et ancien directeur du journal Le Monde, qui nous présente les invités.
Avec nous cet après-midi pour débattre, il y a Raphaël Poulain qui est un champion de rugby qui a fait une bonne partie de sa carrière, vous pouvez l'applaudir, au Stade français, qui est aujourd'hui comédien et qui a aussi écrit un livre qui s'appelait « Quand j'étais Superman », vous lui demanderez qu'est-ce que c'était d'être Superman. Est avec nous aussi Johan Sangari, champion de basket. Avec nous aussi Julien Duguet, qui est professeur d'éducation physique et sportive au collège Gabriel Péri d'Aubervilliers. Et puis, est-ce que c'est encore utile de le présenter après les premières images qu'on a vues tout à l'heure, magnifiques, de Martin Dussault, qui va nous parler encore un peu plus de son programme « Bien dans mes baskets ». Bien, merci à vous tous d'être là pour ce débat. Et alors, c'est vrai que la manière dont a été posée la question « Le sport est-il un leurre ?» nous invite et presque une perche tendue pour nous dire non, bien sûr que non, ce n'est pas un leurre. Et en même temps, on sait bien que toute la problématique sportive, on l'a vu encore avant le début de l'Euro, on voit bien que le sport charrie aussi, en particulier le sport professionnel, charrie un certain nombre de non-valeurs ou d'anti-valeurs qui sont très opposées à ce qu'est l'image du sport et à ce qu'il est. Justement, lorsque vous êtes à l'école, au collège, au lycée, et lorsque le sport devient un tremplin pour bien et mieux vivre sa vie. Alors, je serais tenté de vous poser la question à vous, Raphaël. Le sport, d'abord, c'est une expérience de vie qui vous a rempli de quelle manière ? Qu'est-ce qui a fait que le sport a changé votre vie d'une certaine manière ?
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de voir de la couleur, ça fait plaisir, et des femmes et des hommes, c'est top, c'est génial. Moi j'ai découvert le rugby à 7 ans, je suis originaire de Beauvais en Picardie, donc c'est pas trop une terre de rugby, et je me souviens encore des premières images quand je suis arrivé sur le terrain, je me souviens des gens qui m'ont fait aimer ce sport. J'ai joué 10 ans en amateur, et mon pire souvenir de rugby, c'était à 14 ans, en fait, un quart de finale Philipponeau, donc c'était une petite catégorie. Donc ça a été mon pire souvenir, et mon meilleur souvenir de rugby a été à 19 ans, une finale de champion de France. J'étais champion de France en réchelle. Et trois mois plus tard, j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'étais 6 ans professionnel, donc j'ai 3 titres de champion de France, 2 finales de Coupe d'Europe, sauf que je n'ai pas joué une finale. Donc, entre ce qu'on vous vend en général dans les médias, des anciens dieux du stade, des héros des temps modernes, on a un petit peu des gladiateurs, surtout dans le rugby, ce n'est pas la réalité. En fait, la réalité de ce qu'on vous vend dans les médias, c'est plus pour faire rêver et pour faire vendre que ce qui se passe, de ce que peut être une carrière. Une carrière, c'est l'amitié, une carrière, c'est les rencontres, une carrière, c'est la diversité. Faire carrière en amateur ou en professionnel, c'est pour moi la même chose. La réussite humaine, pour moi, c'est vivre bien avec soi-même et vivre bien avec les autres. Les héros d'aujourd'hui, selon moi, c'est ceux qu'on a face à nous, c'est les éducateurs. C'est tous ces gens qui permettent aux jeunes justement de rêver, certes en apportant un cadre, même si c'est chiant l'autorité, mais elle est importante. Et bien moi, c'est ce que le rugby m'a appris, c'est ce que le sport m'a appris, mais il y a aussi des limites. Et les limites, en général, on les caricature. Soit on glorifie le sportif, soit on le met plus bas que terre quand il fait une erreur. Sauf qu'on a oublié, c'est que le sportif, il est comme vous et moi. Il est juste humain, avec des forces et des faiblesses. Et voilà ce que le sport m'a appris, c'est de comprendre aussi mes limites et comprendre que plus on s'approche du soleil, et bien plus la chute peut être compliquée. Et puis quand on en revient, on se rend compte en fait de toutes les rencontres qu'on a pu avoir, de tous les gens qu'on a rencontrés, ce que j'appelle les Merlin l'Enchanteur. Et je pense d'ailleurs à la première femme qui m'a fait aimer le rugby à 7 ans, c'était mon premier Merlin l'Enchanteur. Voilà.
Merci beaucoup Raphaël pour ce premier témoignage. On reviendra vers vous, tout le monde aura la parole. Plusieurs fois, comme dans un jeu collectif, comme dans un jeu d'équipe. Alors, Johan Sangari, je me tourne vers vous. Est-ce que le sport, pour vous, a tenu ses promesses ? Et est-ce quelquefois il y a eu des déceptions, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut effectivement être rempli par la pratique d'un sport à haut niveau comme vous l'avez fait, et puis aussi ne pas être lucide et savoir quelquefois on est déçu.
Bonjour à tous. Non, moi sincèrement j'ai eu aucun regret par rapport au sport, par rapport à ma carrière. Par contre, je pense que pour atteindre le haut niveau, ce que les jeunes ici se rendent pas compte, c'est du travail qu'il faut effectuer. Moi, je me suis entraîné à 7h du matin avant d'aller à l'école. J'allais à l'école à 8h, 8h30. J'avais déjà fait 1h30 d'entraînement, voire 2h. Je finissais l'école, j'allais m'entraîner encore. Et des fois, je m'entraînais jusqu'à 22, 23h. Et pas de vacances. Les vacances scolaires, c'était entraînement. Les vacances d'été, c'était entraînement. Et ça a été ça presque toute ma vie. Après, le sport, c'est ce qui m'a permis de vivre. C'est ce qui m'a permis d'aider ma famille. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet aussi d'avoir créé une association autour du basket qui peut aider des centaines et des centaines de jeunes dans le monde. Moi, j'ai commencé ici dans la région parisienne, dans le 95, à côté de Sarcelles. Et j'ai pu atteindre mon rêve d'aller jouer en équipe de France, d'aller jouer en NBA, etc. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont poussé. Et moi, contrairement à certains, grâce au sport, j'ai pu faire des études. C'était que moi, j'étais à fond dans le sport. J'avais mis les études de côté. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse d'études grâce au basket pour aller étudier aux États-Unis, pour aller jouer aux États-Unis. Et en sachant que là-bas, si on n'a pas de bonnes notes, on ne pouvait pas jouer. Donc j'étais forcé de me mettre à l'école. Et c'est le sport qui m'a à chaque fois poussé dans l'éducation, dans tout ça. Mon premier contrat professionnel était en Espagne. J'ai dû apprendre à parler espagnol, m'imprégner d'une culture. Ensuite, j'ai été jouer à Milan en Italie, j'ai dû apprendre une autre langue. Le sport m'a rempli ma vie comme je l'aurais pu l'espérer. Et puis, m'a permis de faire des rencontres partout dans le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, sur tous les continents. Et le sport, pour moi, c'est vraiment toute ma vie. Et c'est ce qui m'a permis, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a guidé dans la bonne direction. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de... Aujourd'hui, je fais un master de management du sport. Et encore une fois, c'est grâce au sport que je suis capable de faire tout ça.
Merci beaucoup pour ce premier témoignage, Johan. On peut l'applaudir.
On retrouve Eric Fotorino, journaliste et écrivain, cofondateur du magazine Le 1 et ancien directeur du journal Le Monde, qui a animé ce débat avec la thématique « Le sport est-il à l'heure pour les jeunes ?» On le retrouve avec ses invités.
Le travail, l'ouverture au monde, beaucoup de choses déjà qui sont dites, des notions comme ça sur lesquelles on pourra revenir et réfléchir ensemble. Martin Dussault, on a vu quelques images très fortes tout à l'heure de ce film. On n'avait qu'une envie, c'est de le voir en entier, ce film. Et on voit bien des moments de grande tension, des moments de concentration, des moments de joie ou de libération. C'est tout ça, le sport, pour vous ?
Pour moi, le sport, c'est comme une micro-société. C'est ce qui se reproduit aussi dans le quartier. C'est ce qui se reproduit quand on est à l'école. Donc, toutes ces émotions-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, se retrouvent à l'intérieur des matchs, se retrouvent à l'intérieur des pratiques. Ces moments de réussite, mais aussi ces moments d'échec, à laquelle, hein, vous l'avez dit, on grandit avec ces moments d'échec-là. Et on grandit avec ces moments de réussite-là. Donc, toutes ces émotions-là, ce qu'on souhaite, c'est que ça forge un peu l'adolescent et l'adulte de demain. Moi, ils ont fait son effet sur moi. J'ai eu la chance d'avoir des modèles qui ont été pour moi des personnes significatives et qui m'ont permis de comprendre peu à peu qui j'étais. Donc, c'est un peu ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui participent à l'intérieur du programme, les gens qui font leur sport, apprennent à se découvrir avec leurs forces, mais aussi avec leurs limites, et qui peu à peu avancent au travers de leur adolescence.
Et est-ce que le fait de pratiquer un sport collectif, ça, par rapport à l'athlétisme ou un sport vraiment individuel, est-ce que vous avez le sentiment que ça, c'est un apprentissage encore plus profond de la vie en société?
J'y crois fermement. Dans le basketball, même chose pour le foot, chaque personne est dépendante de l'autre personne. Donc, si un jeune ou si un athlète décide de ne pas se présenter à un match ou décide de ne pas se présenter à une pratique, c'est tout le reste du groupe qui a l'impact. C'est la même chose au rugby. Si des gens décident de ne pas se concentrer quand on rentre sur le terrain, c'est tout le groupe qui en a l'impact. Donc, tout cet apprentissage-là de l'autre, du vécu de l'autre, des émotions de l'autre, et de voir quel apport, moi, je peux avoir sur l'autre, sont extrêmement importantes. Donc, pour moi, le sport collectif a cette capacité un peu supérieure face au sport individuel.
Alors, Julien Duguay, vous êtes un éducateur, donc vous emmenez des jeunes d'un point à un autre, vous leur fixez, j'imagine, des objectifs. Pour vous, est-ce que le sport est-il un leurre? C'est une question provocante. Ou est-ce qu'effectivement, il faut les mettre en garde contre les illusions que pourrait véhiculer avec lui le sport, l'image du sport qu'on voit à la télévision avec les champions, avec l'argent, avec ce qui semble la vie facile? Et puis, il y a la réalité de l'entraînement, de la persévérance, de tout ce qui vient d'être dit.
Oui, non, justement, c'est pas un leurre, mais effectivement, il faut les mettre en garde. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce que nous aussi, on peut parler de notre vécu. Moi, quand j'étais jeune, c'est pareil. J'aurais bien aimé être basketteur professionnel, mais bon, j'avais que la passion et pas le talent de Johan Sangaré. Mais oui, il faut les mettre en garde, parce qu'effectivement, quand on demande à la fin de... Moi, j'ai des collégiens. À la fin de troisième, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Effectivement, sur beaucoup de jeunes, ils souhaitent faire footballeur professionnel, enfin... À Aubervilliers, c'est beaucoup de foot. Donc, beaucoup souhaitent faire footballeur professionnel. Il faut les mettre en garde, leur dire que, effectivement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mis au service, justement, de cette passion. Et ça ne tombe pas du ciel. Voilà, c'est beaucoup de travail aussi.
Ce serait bien, après cette première vague de prise de parole de nos invités, champions et éducateurs, que certains d'entre vous nous disent si le sport a tenu ses promesses à vos yeux. Est-ce que quelquefois vous avez été déçu, vous avez cru que vous obtiendriez du sport quelque chose qui finalement n'a pas été ce que vous croyez? Ou est-ce qu'au contraire vous avez eu des bonnes surprises? Est-ce que le sport vous a révélé des choses à vous-même? Alors je sais que des micros circulent. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole pour témoigner et puis évidemment aussi pour questionner nos invités.
Moi, cette question, elle me taraude un peu, le thème du débat, le sport est-il un leurre pour les jeunes? Dans le cadre de l'Euro 2016, donc le football, qui a une dimension planétaire, moi j'aimerais bien faire intervenir un point de vue qui est un peu au-delà de l'hexagone, parce que aussi le football en Europe... va au-delà du cadre européen. Donc, il y a une vraie influence sur le reste du monde, sur la perception qu'on a aujourd'hui et du football, du sport en général, surtout quand on voit des champions. Et par rapport à cela, moi, je viens du Sénégal. Et pendant des années, j'ai beaucoup œuvré autour du sport au Sénégal, en direction des jeunes, et de me rendre compte qu'en fait, cette question, elle est d'autant plus pertinente parce que il y a vraiment ce côté leurre, parce qu'on est loin des conditions où ça se fait ici, et malgré tout, il y a plein de jeunes qui sont tentés vers cette aventure et qui, pour la plupart, sont un peu dans le leurre, de la même façon qu'on penserait que l'Europe, c'est un Eldorado et que la vie est toujours belle ici, et que ça nécessite tous les risques qu'on voit prendre des jeunes d'Afrique ou d'autres continents vers l'Europe. Et je pense que par rapport au sport en général et au foot en particulier, cette problématique, elle est d'autant plus existante chez nous. Et par rapport à ça, il y a une part de questions que je développe par rapport à ce qui se fait dans le sport en général ici. Et il y a une autre part aussi de réponse que je voudrais apporter par rapport à ces publics en dehors de l'Europe, mais qui sont fascinés par les conditions du sport en général, du football, du sport de haut niveau en Europe. Et pour répondre à cette question, moi je suis tenté de dire pour 90% de cas, c'est un leurre en Afrique. C'est un leurre parce que aujourd'hui, avec la médiatisation que le sport de haut niveau prend, la seule vision qu'on a, c'est comme une vision d'iceberg dans ces autres continents. C'est de voir que la partie immergée, qui est au-dessus. Et cette partie au-dessus, c'est un peu ce que transmet, comme vous l'avez dit, ce pouvoir de médiatisation du sport de haut niveau. C'est la richesse, c'est la gloire, c'est cette reconnaissance au-delà de son cadre lui-même.
Alors, très bien, merci pour votre intervention. Je pense qu'on a bien compris ce que vous vouliez dire. Merci, on va faire réagir. Est-ce que qui veut répondre là-dessus ? Johan Sangari.
Je pense que vous avez entièrement raison sur certains points. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les centres de formation, par exemple, de basket ou les sports-études, je sais qu'au basket, il y a une statistique qui est sortie où il y a presque 85 ou 87% des jeunes qui ne passent pas professionnels. Donc, des jeunes comme vous, qui sont dans l'élite jeune, qui arrivent dans des centres de formation, qui peuvent parfois s'entraîner avec des professionnels pendant un an, deux ans, trois ans, et ben il y en a 80% qui ne réussissent pas, qui ne passent pas professionnels. Et le problème, c'est que souvent, ils ont arrêté l'école tôt, parce qu'ils ont arrêté leur bac, parce qu'ils doivent s'entraîner avec les pros, ou des choses comme ça. Donc oui, parfois, le sport peut être un leurre, mais je pense aussi que ça va dans les deux côtés. Moi, je sais que jeune, il y a des professeurs qui m'ont dit, mais le basket, est-ce que c'est un métier ? C'est pas un métier. Il faut que travailler à l'école. Et en fait, j'en ai voulu à ce professeur-là qui m'avait, entre guillemets, empêché de rêver. Et je pense qu'il ne faut pas non plus empêcher aux jeunes de rêver et de croire en leurs rêves. Aujourd'hui, j'ai une association, on fait beaucoup de choses au Sénégal. J'essaye d'envoyer les jeunes aux États-Unis, justement parce qu'ils ont le double projet là-bas. Et pour ceux qui arrivent à intégrer la France, il y en a certains qui sont dans des centres de formation. Et il y en a certains qui arrivent à devenir professionnels, que ce soit au foot, au basket ou autre. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut quand même les pousser vers leurs rêves. Parfois, certains ne vont pas arriver professionnels, mais vont arriver en France, vont pouvoir trouver un travail, aider leur famille et devenir prof de PS, devenir professeur de maths ou autre chose. Mais je pense que le sport peut être un bon moyen de les pousser vers autre chose. Moi j'étais parti avec mon rêve de jouer en NBA, j'ai pas réussi à aller jouer en NBA, mais ça m'a poussé vers d'autres horizons. Et je pense que les jeunes, que ce soit des jeunes de quartier ou que ce soit des jeunes d'Afrique, si on les pousse dans le sport, ils rencontreront des gens, ils découvriront d'autres univers, et ça leur permettra peut-être de faire quelque chose de totalement différent, mais à la base parti sur l'idée de devenir joueur professionnel, que ce soit de foot, de handball ou de rugby, quoi.
Ah, la moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sur le bon touche. Affrontera pas marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la chauffeur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros en redemandent, passe un coup de fil, y'a d'un peu frais sur que moi. Tu me passes sur les réseaux, tu t'aimes mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la yoka, on se bute à la peuf. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team, Paname c'est la Champions League, on baisse en Champions League, Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. On peut rester en Champions League, Paname c'est la Champions League. Les gars va m'ont dit, bombarde-les. Ces PD s'approchent, font semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, ridé chez Fournier. Gros, à part ta lumière, tu vas rien allumer. Un Glock dans la main, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est bête d'avoir les couilles vides, bien 9 mm. Trop duc, on t'a pas tiglé, lève tes pas, c'est pas le maître. Amis-toi à droite, amis-toi à gauche. Tout le quartier croit qu'il est riche. Versace par là, Gucci par là. La malade au frigo est vide. Pas ta main de mon épaule, c'était pas de mon équipe. Le téléphone sonne, je peux pas rester tranquille. L'atmosphère est tendue, c'est la chance à 26. 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. 9-4, c'est la Champions League. 9-5, c'est la Champions League. 7-7, c'est la Champions League. 7-8, c'est la Champions League. C'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League. Fox, c'était pas de ma team. Paname, c'est la Champions League. On baisse tout en Champions League. Paname, c'est la Champions League. Fox, c'était pas de ma team. On baisse tout en Champions League. Paname, c'est la Champions League.
C'était MHD avec Champions League sur Radio Déclic 106.3. Vous pourrez retrouver l'intégralité du débat « Le sport est-il à l'heure pour les jeunes ?» sur www.associationdeclic.org/APELS. Voilà, et comme ça vous saurez tout, c'était un débat très intéressant. Mais pour l'heure, on retrouve Mehdi avec les rendez-vous culture. Les rendez-vous culture avec Mehdi. Avec Mehdi. Chaque mois, un monument culturel tunisien à découvrir. Les rendez-vous culture, c'est sur Radio Déclic 106.3. Radio Déclic 106.3.
Bonsoir à tous. Après une longue absence, c'est le retour des rendez-vous culture. Aujourd'hui, édition spéciale à la découverte des ludothèques de la ville de Saint-Denis avec l'interview de Perpétua, ludothécaire.
Alors, la première ludothèque à Saint-Denis, elle a été créée en 1993 suite à un besoin local. Donc, les professionnels de la maison de quartier de la plaine Saint-Denis, ils ont constaté qu'il y avait plein d'enfants qui traînaient dans les rues, qui traînaient à la maison de quartier. C'était des enfants qui n'allaient pas en centre de loisirs. Donc, suite à la fréquentation répétée, fréquente de ces enfants, ils se sont posé la question du sort, de la manière d'occuper et de rendre ce temps libre des enfants utile.
D'accord. Alors, ici, on est à la fan zone de Saint-Denis et on peut voir qu'il y a des installations qui relèvent des ludothèques. Alors, pourquoi il y a des ludothèques ici ?
Alors, les ludothèques, elles sont là parce qu'elles sont en cohérence avec ce qu'on fait d'habitude. Donc, les ludothèques, c'est du loisir, c'est une activité ludique. Donc, il est tout à fait normal que les ludothèques elles soient présentes dans la fan zone. Donc, ça permet pour nous, les ludothécaires, de proposer une activité. Ce n'est pas la même activité qu'on propose en ludothèque, mais vous proposez une activité qui est du registre du loisir, du divertissement. Et donc, c'est tout à fait logique, normal que notre présence se fasse ici.
Et qu'est-ce que ça apporte culturellement aux enfants, cette ludothèque présente ici ?
Alors, culturellement, je ne sais pas si culturellement apporte quelque chose, mais en tout cas, ça permet aux enfants de s'amuser. Donc, notre activité, elle est essentiellement centrée sur le loisir, l'amusement, le divertissement. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de proposer un temps de loisir où les enfants se sentent bien. Après, culturellement, tu sais, la culture, c'est un mot très vaste. On ne sait pas trop ce que ce mot contient. Donc, il y a effectivement des jeux, dans ce cadre, des jeux géants, des jeux gonflables. Est-ce que culturellement, ils représentent quelque chose ? Je n'en sais rien. Mais on a effectivement des jeux qui pourraient se rapporter à une culture, qui sont des jeux en bois, les jeux géants qui sont présents de l'autre côté de cet espace. Là, effectivement, il y a peut-être un rapport avec la culture, ne serait-ce que de la culture de la fabrication. Donc, parce que ce sont des jeux qui sont faits d'une manière artisanale et c'est une pratique qui se perpétue, qui se transmet de génération en génération. Donc, pour moi, le mot culturel, oui, elle serait plus dans le sens de la fabrication de l'outil que proprement dans la représentation même du jeu.
Et pour revenir aux ludothèques habituelles, qu'est-ce que vous proposez en général ?
Alors, en général, les ludothèques proposent des jeux et des jouets en public intergénérationnel, donc des jeux pas surdimensionnés comme tu peux trouver ici, mais des jeux classiques et standards. Hein, donc des jeux de stratégie qui sont proposés plus sous forme de jeux de plateau, comme les échecs, les dames, le corridor, etc. Tu as les jeux les jeux de dés, les jeux de cartes, tu as des puzzles, tu as des jeux de construction, enfin, tu as tout un ensemble de catégories des jeux. Et le but, c'est que tout le monde puisse trouver son jeu.
D'accord. Et comment on fait pour s'inscrire au ludothèque, pour y aller? Est-ce qu'il y a un site qui propose des informations?
Alors oui, il y a le site de Saint-Denis. Donc les horaires et les adresses et les ludothèques, elles y sont. Sinon, tu as aussi le journal de Saint-Denis où sont affichés les horaires de l'ouverture des ludothèques. Et tu peux trouver des affiches un peu partout, surtout dans des institutions telles que les écoles, dans les crèches, dans les écoles maternelles. Au cinéma, par exemple, il y a aussi une affiche qui comporte les horaires et les modalités de fréquentation de la ludothèque.
C'est un service gratuit ?
C'est un service complètement gratuit, complètement. En plus, nous avons deux modalités de fonctionnement. On accueille les groupes en matinée et on accueille un public intergénérationnel en après-midi. Et au-delà du jeu sur place, on propose aussi un prêt de jeu. Voilà. On peut, les enfants, les adultes, ils peuvent aussi profiter du jeu qu'ils trouvent en ludothèque et l'emmener chez eux sous forme de prêt et pouvoir jouer en famille ou entre amis. Donc ça convient à des familles qui ne peuvent pas venir tous les jours à la ludothèque, par exemple, mais ça permet aussi aux familles plus défavorisées d'avoir un jeu chez eux, parce que le jeu, c'est quand même un outil assez cher, et d'essayer aussi un jeu avant même de l'acheter.
D'accord. Alors, est-ce que vous menez des actions culturelles hors les murs ?
Alors, des actions culturelles, moi, je parlerais plutôt des actions ludiques. Hein. Oui, bien entendu, on travaille aussi, on est aussi dans les espaces extérieurs, dans les rues, dans les parcs, dans les squares, un peu partout, là où il y a de la demande, là où il y a du public. Mais ce sont des rencontres très, très formelles. Donc, soit la fête Saint-Denis, les kermesses, la fête quartier, voilà, tout dépend des demandes qui sont faites ou selon les problématiques. Il nous arrive aussi d'aller jouer devant la gare de Saint-Denis suite à une problématique de terrain où il n'y avait rien, où les gens, il y avait des agroupements de personnes, essentiellement des jeunes adultes qui sont dans la. Sans rien faire, qui n'ont pas de travail, qui sont un peu dans l'oisivité. Et donc, pour eux, notre présence, c'est pour eux une manière aussi de leur permettre de profiter de ces structures qui, pour la plupart, se sont certes décentrées, mais qui ne se trouvent pas dans tous les quartiers de la ville, notamment dans le quartier de la gare.
Et pour conclure, les ludothèques sont proches des gens ?
Alors, les ludothèques, elles sont très proches des gens, bien entendu. D'ailleurs, c'est les gens qui viennent dans les ludothèques. Et même si nous, on va vers eux de manière formelle, les gens, ils peuvent venir dans les ludothèques tous les jours, du mardi au samedi, pendant les heures d'ouverture. Et il y a effectivement une proximité très grande entre les animateurs et les habitants qui se font justement à travers la pratique du jeu. Parce que le jeu, ça sert à ça aussi. Ça amuse, mais ça crée du lien, ça permet la connaissance de l'autre, ça permet de...
C'est un outil.
C'est un outil social, effectivement, parce qu'il y a un caractère social qui se développe au sein même de la ludothèque par le biais du jeu et la pratique du jeu. Et des fois, on n'a même pas besoin de jouer. Le fait d'être à la ludothèque, on est là aussi pour voir jouer. Il y a des gens qui n'aiment pas trop jouer, mais ils aiment bon voir jouer. Ou alors, on vient aussi pour papoter avec les gens qui sont présents, avec les animateurs, etc.
La ludothèque, un lieu de sociabilité et de culture. Toutes les informations sur notre site internet. Ce soir sur Radio Déclic, un cadeau exceptionnel à gagner en répondant à cette question relativement simple. En quelle année la première ludothèque a-t-elle été créée ? Alors, le cadeau, c'est 2 places pour l'Euro 2016. Vous nous répondez en laissant bien vos coordonnées au 01 49 40 01 90. Je répète pour les têtes en l'air, 01 49 40 01 90 ou par le biais des commentaires sur notre site internet associationdeclic.org/rdvculture.
Alors laissez bien vos coordonnées qu'on puisse vous rappeler si vous gagnez, sinon ça ne sera pas possible. Allez, on répète une dernière fois la question.
En quelle année la première ludothèque a-t-elle été créée ?
Voilà, 01 49 40 01 90. Short, down, up,
Bay Area. They showed me so much love when I was down there. I had to get hypey on this one. Ask my to LeBron. You're so big, we ain't gotta respond. When you're talking to a Don, please have respect like you're talking to your mom. We let the money do the talking. As you see, we be talking rather often. The rock voice in the building of the 150 million. Don't it sound like we yelling? Who the f*** is overrated? If anything, they underpaid them. Hating, that's only gonna make them spend a night out of spite with the chick you been dating. We the best of the best. We gonna be here so the rest can take a rest. I gotta get this off my chest. No pause, none of that shit. Get off my... Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. I gotta mean to slow the whistle. It's too easy for me. Hold up. I gotta keep it real. It's gonna take 7 movies by Will. What up? 7 movies at 20 mil. And you're still 10 short from what I did with one deal. Don't compare me to nobody. I'd rather not be mentioned. I'm offended. Unless you're talking Sinatra, James Dean, or John Lennon, or Jimi Hendrix. I'm just a rock star, bitch. Keep it real, you know I got y'all, bitch. We ain't in the same league. You can lie to yourself, you can't lie to me. I don't even know y'all name. I'm too big for you to rap LeBron James. Rock Nation, a new movement. And y'all money funny, what the f*** are you doing? I don't know what y'all on. It's your chest, know the difference between a king and a pawn. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle.
Déclic, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours à la même heure, 18h. Restez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour la suite de vos programmes. À la réalisation technique, c'était Senzo. Salut!